Young Chop on the beat.
On light, on light.
Jimmy baby.
Jimmy baby.
On light,
on light.
Sauce baby.
Baby.
Sauce
baby.
Baby.
Now you rock, baby.
Now you rock,
fake
baby.
Niggas, fake lights.
A fuck nigga, that's that shit I don't like. A snitch nigga, that's that shit I don't like. A bitch nigga, that's that shit I don't like. Sneak this up, that's that shit I don't like. Don't like, don't like. A snitch nigga, that's that shit I don't like. Don't like, don't like. A bitch nigga, that's that shit I don't like. A pop bitch, that's that shit I don't like. I got a bad bitch, yeah that bitch right. We smoke dope all day, all night. You smoke Reggie, that's that shit I don't like.
Bonsoir, il est 18h15, nous nous retrouvons en direct de la radio du... À l'occasion de ce 8e épisode de Hors-Série, j'invite Guillaume Hugon, Marvin Dedeus Ganitas et Antoine Ayo, fondateurs de Golgotha, créé en 2013 à Paris, autour d'une conversation sur les rôles et la place du designer graphique. Bonsoir Guillaume, Marvin et Antoine.
Salut.
Salut Victoire.
Vous allez bien ?
Très bien,
ça va.
Ok. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut faire un petit tour de table et vous pouvez vous présenter un peu votre parcours et puis les origines et comment a émergé le projet Golgotha ?
Rapidement, on était aux Arts Déco à Paris. On a étudié là-bas, on a fait nos études, on a commencé en 2008, puis on était diplômés en 2013. Et ben, on était dans la même classe tous les trois et on a fait notre diplôme ensemble. Et pendant le diplôme, même un peu avant, on avait déjà commencé à travailler notre pratique d'effets visuels, de 3D, ensemble tous les trois. Et juste après le diplôme, on a monté le studio. Voilà, en gros, globalement. Sinon, après... personnellement, nos études... moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai fait un bac électrotechnique. Et puis ensuite, j'ai fait différentes écoles pour aller jusqu'aux Arts Déco qui étaient sur concours, etc. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés ensemble par la suite, quoi.
Antoine ?
Oui, alors moi, du coup, c'est à peu près le même parcours que Guillaume depuis 2008, depuis l'arrivée aux Arts Déco. Après, moi, ce que je faisais avant, j'étais en BTS de design graphique à Lyon et en STIR appliqué avant. Bon, c'était les études préparatoires, tout ça, avec les arts appliqués. Et après, sur Golgotha en particulier, nous, disons que... On a eu cette expérience en 2012 où on est partis tous les trois à Los Angeles. On a fait un stage un peu dans cette ville et c'était l'objet de la musique qui est passée juste avant. C'était pour rappeler un peu cette période-là qui était très qui était baignée de American culture, de rap, de trap et de design graphique. Et du coup, c'était un peu l'objet de cette musique. C'était un peu notre stage en fait chez Golgotha. On était un peu les premiers stagiaires de Golgotha à ce moment-là. Donc c'était pour l'anecdote.
Pour précision, le son c'était I don't like de Chief Keef. Et Marvin ?
Moi je viens de Bourgogne, j'ai suivi le même parcours qu'Antoine, à savoir que j'ai été dans un lycée qui offrait la formation d'art appliqué. Ensuite j'ai poursuivi à l'ESSAB à Nevers. Un BTS communication visuelle, option graphisme, édition publicité. Et j'ai intégré les Arts Déco, alors non pas en 2008, mais en 2009, directement en deuxième année. C'est là que j'ai rencontré Guillaume et Antoine, qui se connaissaient déjà depuis une année. Et puis voilà, très rapidement, nos sensibilités il y a eu une véritable rencontre autour de nos sensibilités. On a saisi chaque occasion, scolaire ou pas, à vrai dire. On a eu pas mal de projets personnels aussi qui nous ont amenés, qui étaient de notre propre initiative et qui nous ont amenés à collaborer ensemble. Alors très souvent en duo. C'était un peu Antoine et moi, Antoine et Guillaume, Guillaume et moi. Et puis voilà, effectivement, comme le soulignait Antoine, on a un petit peu eu l'envie, une envie commune, mais ça c'est dû à nos références et nos inspirations. On a voulu partir à Los Angeles, donc on s'est un peu synchronisé pour partir et faire un stage en 2012. On est parti 3 mois là-bas. Et là, je pense que c'est réellement à ce moment-là que ça a scellé notre envie de travailler ensemble. Enfin, ça nous a vraiment ouvert les yeux sur l'envie de fonder un studio. Et en fait, on est revenu à Paris au mois d'octobre et on avait vraiment l'ambition de faire notre diplôme tous les trois. Donc, c'était pas très commun à cette époque. Je ne sais pas si ça l'est toujours ou pas aux Arts Déco, mais en tout cas, c'était assez rare qu'il y ait une formation de 3 étudiants pour un diplôme. Et voilà, on a un petit peu forcé le destin et ça a été un peu un moment charnière pour nous parce que ça a vraiment mis à l'épreuve tout ce qui nous nourrissait et puis tout ce qui nous donnait la foi et la détermination de vouloir faire ce studio. Donc, on peut dire que l'examen est réussi. Donc voilà. Le Golgotha est né un petit peu en amont du diplôme, de l'obtention du diplôme, parce qu'on avait déjà le nom, on avait déjà un petit peu officié sous ce nom-là et on s'était fait connaître. Mais voilà, c'est vrai que ça nous a vraiment conforté dans l'idée de vouloir monter un studio et pas passer par des expériences personnelles ou en agence. On a fait vraiment le saut de l'ange quoi, à la sortie de l'école.
Et puis ça existait voilà, donc avant la forme juridique en 2013,
ouais.
Parce que ça rend aussi les choses réelles à un moment où ça existe aussi sur le papier. Je me suis souvent intéressée au nom et à comment on signait aussi en tant que designer graphique. La plupart des designers que j'ai reçus sur ce plateau avaient eu des premières signatures et puis les signatures ont évolué au fur et à mesure des collaborations. Vous, vous avez choisi Golgotha, il y a un truc très mystique. Quand on s'est rencontrés la première fois, vous m'avez dit que c'était un nom de scène. Est-ce que donc c'est arrivé avec votre expérience de Vidjing au départ ou est-ce que c'est comment ce nom a émergé et vous l'avez choisi?
En fait, on avait effectivement des expériences de Vidjing. On nous sollicitait pour faire des accompagnements de DJ, donc de visuel, donc du Vidjing, sur différentes soirées. Et puis, au bout d'un moment, il y avait quand même une affiche. Il fallait qu'on arrive avec un nom, quoi. Et je me souviens, on avait un groupe Facebook à l'époque de discussion tous les trois. On avait une espèce de gros brainstorming où on avait shooté un tas de noms. Et puis celui-là, il a popé un moment. On s'est dit, ah, c'est cool. Ça sonne un peu black metal, je sais pas, il y avait un truc. Il y avait 3 personnes crucifiées sur cette montagne. On trouvait ça un peu mystique, un peu fun pour de la scène. Et donc on l'a gardé et on était connus sous ce nom-là. Et en fait, plus tard, quand on a monté le studio, au début, on s'est dit qu'on voulait trouver un nom sérieux, quoi. Ouais. Parce que c'était quand même pas forcément viable pour de la commande ou je sais pas comment on allait voir ça. Et puis finalement, on l'a gardé. Parce que les gens nous connaissaient sous ce nom-là et ça nous plaisait en fait. On a étudié pas mal de noms et à chaque fois, ça marchait pas autant que celui-là. On aimait bien quoi. Et voilà.
Et vous avez jamais pensé à le faire évoluer en fonction de vos pratiques, du coup du Vidjing à la 3D, au print
En fait, c'était assez intuitif. Hein. Golgotha, c'est donc c'est tous ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, c'est la montagne sur laquelle a été crucifié Jésus. En hébreu, ça veut dire crâne, et puis c'est devenu une expression courante. Golgotha, on le retrouve, et c'est de là que ça vient. C'est à une époque où je lisais Shakespeare, et je crois que c'est dans Othello ou Macbeth, je ne sais plus, mais en tout cas, un Golgotha, c'est un calvaire, quoi. Et puis, en fait, on a, effectivement, dans le cadre de nos études, on avait vraiment cette envie de vouloir justement apprendre des logiciels qui n'étaient pas propres à ce qu'on avait l'habitude de nous enseigner à cette époque. Nous, aux Arts Déco, alors on était particulièrement bien mal servis puisqu'en fait on nous apprenait Flash alors que le logiciel était...
C'était obsolète.
Et ouais, c'était obsolète. Et puis, en fait, nous, on s'est essayé à différents logiciels qu'on ne nous enseignait pas, donc After Effects, effectivement, comme l'a dit Antoine et Guillaume, la 3D. On faisait ça après les cours. On utilisait le matériel que l'école mettait à notre disposition. On s'enfermait dans des salles. Et puis, en fait, déjà, on pratiquait le VJing tous les trois dans des salles obscures. Et en fait, on a eu plusieurs occasions qui nous ont été données de pouvoir justement performer dans le cadre de Golgotha. Et voilà, c'est de là qu'est né le VJing et le démarrage de Golgotha, quoi.
Il y avait de la curiosité pour la 3D parce que, en fait, c'est un. Bon, on aime bien les. Nous, on aime bien tous les jeux vidéo, on aime bien tous les films avec des effets spéciaux. Enfin, tous les trois, c'est un truc qui nous plaît parce que visuellement, ça a beaucoup d'impact. Ça. Et en fait, ces softwares de 3D étaient, quand on était aux Arts Déco, étaient vachement destinés à l'animation pour le film d'animation, au design produit pour dessiner des objets. C'était utilisé pour l'espace, pour l'architecture. Et nous, en fait, on se disait, mais on peut faire du graphisme aussi quelque part. On peut aussi faire de la typo, on peut aussi faire des couleurs, des choses super abstraites. On n'en voyait pas beaucoup. On regardait quand même pas mal les premiers essais de 3D des années 80-90 qui ont un aspect vachement VHS mais qui étaient que des expérimentations. C'est très très cool à regarder. Et en fait, ça nous a aussi rassurés dans le fait qu'on ne maîtrisait pas forcément beaucoup l'outil mais qu'on pouvait faire des choses super cool en simplement faisant quelques tutos et quelques formations de base sur des softwares comme Cinema 4D, nous on aime beaucoup.
C'est du live le VJing ou c'est...
En fait, le VJing que nous on pratiquait, on n'en fait plus beaucoup maintenant mais on le ferait encore de la même manière, on enregistrait plein d'animations. En fait on pourrait dire que c'est comme des gifs, mais j'aime pas dire gifs parce que c'est, en termes de qualité nous on cherchait un peu mieux, on cherchait comme des vidéos qui bouclent sur fond transparent et on faisait comme des sets, c'est-à-dire que d'un seul coup on disait tiens on va faire un set qui va être que des pierres qui tombent, qui tournent, qui volent. Et d'un seul coup, on fabriquait des pierres en 3D sur fond transparent, on les faisait tourner, et puis on utilisait tous les petits tutos qu'on avait appris pour les faire bouger de telle manière, les éclairer. Et ça faisait un dossier avec, 40 vidéos de pierres qui bougent. Puis on faisait des fonds animés, et puis d'un seul coup, avec un logiciel de VJing, on peut superposer des calques. Et donc ça nous faisait une banque d'animation. Et en live, on appuie sur celle-là, on met cette animation-là, on met ce fond-là. Et en fonction de la musique, on appuyait sur backward, allumer, éteindre. Et sur le rythme, comme ça, un peu comme un DJ. C'était pas du VJing génératif, avec un truc qui réagit au son. C'était pas un truc programmé. Ça, on en a fait un peu plus tard pour du vrai live. Mais nous, la manière dont on l'a approché, c'était très instinctif, très organique.
Et justement, vous avez dit performer tout à l'heure, et c'est super intéressant parce que je me rappelle, moi, quand j'étais au Beaux-Arts, j'étais dans la section design, et c'est quelque chose qu'on m'a presque interdit de faire en tant que designer, de performer. Donc ça veut dire à un moment de prendre la parole autrement qu'à travers les objets qu'on réalise. Comment vous avez approché justement cette scène en étant encore étudiant en plus ? Enfin, est-ce que les Arts Déco, c'est une école aussi qui permet ça, qui permet cette ouverture-là aux designers graphiques ?
Je pense que ça le permet, mais nous, ce n'est pas comme ça qu'on l'a approché. C'était plutôt le milieu du design graphique, plutôt français, des écoles, l'ancienne école de Marvin où il était, où il faisait une soirée étudiante, où il y avait un VJing de prévu, Chaumont, le festival, il y avait une clôture du festival avec une fête. Donc du coup, ils nous sollicitaient pour faire du VJing, parce qu'en fait, il y avait plein de VJ ces soirées-là, et ils mettaient ça dans leur programme. Et c'était plutôt des choses comme ça. Les arts déco, en tout cas, à notre époque, le VJing, c'était pas vraiment un truc...
Il n'y a jamais eu aucune synergie autour du VJing aux arts déco. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais à notre époque, ce n'était pas le cas. C'était quelque chose qu'on ne comprenait pas. Et c'est ce qui faisait aussi que... toute la marginalité aussi de notre association de malfaiteurs à l'époque où vraiment on utilisait la puissance des ordinateurs pour rendre des trucs, on installait des logiciels qui n'étaient pas prévus. On s'est réapproprié finalement tout le matériel que l'école mettait à notre disposition. Mais c'était quelque chose qui nous permettait déjà de faire l'effort de sortir du carcan de l'école. C'est aussi, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'est fait connaître très tôt, c'est qu'on avait déjà la volonté de ne pas s'installer dans un rapport scolaire par rapport au graphisme, c'est-à-dire qu'on avait des, on nourrissait déjà des projets, qu'on menait parfois de notre propre initiative et parfois pas, parfois on nous invitait, et c'est bien pour ça aussi que par la suite Golgotha s'est fait connaître, que le nom a commencé à traîner. Nous, on avait pris l'initiative aussi de contacter des gens pour s'associer à eux, mais nous, on nourrissait, bon, c'était clair qu'on avait l'ambition de vouloir monter un studio tous les trois, mais à la base, il ne devait pas s'appeler Golgotha. Golgotha, c'était une... Et à vrai dire, il n'y avait pas de business plan non plus, mais disons que le projet qu'on entrevoyait pour nous, c'était d'avoir Golgotha comme presque une soupape, quelque chose un peu en parallèle, qu'on allait mener en parallèle et sur lesquels on allait pouvoir s'éclater. Mais tout en s'investissant pleinement et avec beaucoup de cœur et à l'ouvrage dans des projets qui seront de commandes et qui seront plus classiques. Il y avait un studio parallèle sur lequel on commençait à gamberger, et on s'imaginait mener ces choses en parallèle. Et puis finalement, Golgotha a pris toute la place et c'est devenu hyper naturel pour nous de répondre. Puis c'était une manière aussi d'apprendre et d'apprendre ces logiciels et du coup de créer un nouveau langage aussi, de l'intégrer justement à des commandes qui sont plus classiques ou en tout cas qui permettaient de donner du sens à tout ce qu'on faisait un peu de manière récréative dans le vidging, quoi. Donc effectivement, Guillaume disait, il y avait juste une fascination purement formelle de créer un vocabulaire graphique. Parfois, c'était thématisé autour des rochers ou de la végétation ou des éclairs. Et puis tous ces logiciels et puis ces codes graphiques qu'on a créés, on leur a donné du sens et on les a mis en application dans le cadre de commandes de projets. Et ça nous a permis aussi de justement nous réapproprier ces logiciels. Moi, je m'en souviens, au tout début, on se posait la question comment faire un logo dans After Effects, comment faire de la mise en page dans Photoshop. C'était une manière, j'aime pas trop le mot ludique, mais en tout cas de renverser les choses, mais en tout cas de
déplacer aussi.
Ouais, des vrais déplacements, quoi. Ouais. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, je pense, la signature Golgotha, c'est qu'on n'a pas une vision... académique, ça ne veut pas dire qu'on renie tout ce qui nous précède, mais c'est essayer de dégager dans des logiciels qui tendent vers la normalisation une signature, quoi, une façon de faire dans notre méthodologie. Et le vidging nous a permis, ça a été la porte d'entrée vers tout ça, quoi.
Justement, sur cette question académique, on est tous passés par un peu l'histoire du graphisme, tous les conflits aussi qui a pu se passer dans l'histoire du graphisme, le conflit des modernes, etc. Comment vous avez fait ? Enfin, est-ce que vous avez décidé de vous en débarrasser et de dire OK, on a compris et par contre, on trace notre route, ou vous avez réussi à les digérer d'une certaine manière pour... créer quelque chose qui est à vous.
Selon moi, non. On a quand même parfois une approche plus académique qui, pour moi, est très importante. C'est que y a beaucoup de dessins. Hein. Les projets qu'on fait, ils ont beau être en 3D, ils ont beau être en film, tout ce qu'on veut, la base restera toujours le dessin. Je sais pas, un storyboard, un croquis, n'importe quoi. Mais il y a une énorme partie de notre travail qui est basée là-dessus, parce que pour nous, c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses solides. Et ça, je pense qu'on peut difficilement s'en écarter, en tout cas nous. C'est clair. Et ce n'est pas la volonté de s'écarter de quoi que ce soit, mais c'est parce que c'est l'approche naturelle pour développer un projet, selon nous, de A à Z. C'est d'avoir une première esquisse, une première ébauche, de pouvoir le partager avec la personne avec qui on travaille, avec un client, entre nous, peu importe. On se comprend bien comme ça, ça marche bien.
Et justement, au départ, Golgotha, donc vous étiez en cohabitation avec Novembre Magazine dans vos premiers bureaux. Et puis, vous avez eu 2-3 locaux de bureaux, si je ne me trompe pas. Donc, au fur et à mesure que l'équipe aussi a grandi, comment vous avez fait vos premiers recrutements et comment vous collaborez avec parce que ça s'apprend, en fait, sur le terrain. Donc, qu'est-ce que c'était vos critères ou qu'est-ce que vous attendiez? Parce qu'on parlait justement la dernière fois quand on s'est rencontrés d'une forme qui est presque un peu obligatoirement hiérarchique, dans le sens où c'est vous qui apportez, qui avez un contact avec les clients et donc c'est vous qui avez ce premier lien. Comment ça se passe en fait pour monter des équipes? Comment on fait?
Nous, on l'a pas vraiment, il n'y a pas trop de méthode. C'est-à-dire que simplement, au début, on travaillait tous les trois. Et puis, on avait plusieurs projets, on réalisait, on faisait absolument tout avec nos outils et nos ordis. Et puis, au bout d'un moment, par la force des choses, on a eu de plus en plus de demandes. Et ce qui nous a amené à nous dire, il faudrait renforcer un peu l'équipe, il faut être avec des personnes avec qui on a envie de travailler, des personnes qui ont aussi envie de travailler avec nous pour pouvoir répondre à nos commandes. Et naturellement, on a choisi de travailler avec des freelances comme nous. On a choisi de travailler avec des boîtes de post-production. On a choisi de travailler avec des designers d'espace. Enfin, au bout d'un moment, en fait, c'est pas vraiment une méthode, c'est presque un besoin. Donc, on va chercher une solution. Et puis, c'est naturel, en fait. C'est assez organique.
Mais je pense qu'il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est... Dans un premier temps, il y a quand même des rencontres humaines qui se font autour de nos sensibilités. Mais toute la difficulté, c'est quand même de pouvoir les intégrer à notre processus, à savoir que Guillaume, Antoine et moi, d'abord, on a pas tout à fait le même âge, mais on appartient quand même à la même génération. On a aussi mis à l'épreuve, comme je le disais tout à l'heure, notre méthodologie qui n'en est pas vraiment une, mais qui est vraiment basée sur les intuitions et que tous les trois, on partage assez... Enfin, vraiment, pas dans le silence, parce qu'on parle, on communique beaucoup entre nous, mais on a quand même cette capacité de compréhension où je sais qu'Antoine, quand il fait c'est pas tout à fait c'est autre chose que la confiance, mais c'est vraiment une sorte de Antoine ou Guillaume par exemple, moi je les vois comme le prolongement de ma personne et en même temps des individus à part, mais il y a quand même une vraie cohabitation et puis en fait il y a une place pour chacun, même s'il y a un ego individuel, mais il y a quand même un ego collectif.
Et comment vous répartissez les rôles? Est-ce qu'il y a des trois, il y a des meilleurs techniciens ou est-ce que chacun a un rôle, ou finalement est-ce que dans les rapports au projet à chaque fois c'est confondu?
Je pense que c'est assez, en tout cas sur nous ce qu'on fait, étant donné qu'on a créé Golgotha de nous trois, quoi, nos propres mains, on a appris très vite à travailler ensemble et c'était très fluide dans la manière de fonctionner sur les visuels, sur les vidging. Il y en avait un qui démarrait une 3D, l'autre un dessin. Puis ça passait à l'autre qui allait tout d'un coup rajouter un effet par-dessus. Et puis ça grimpait comme ça. Et du coup, on a toujours ça. Je pense que même si on le pratique par la force des choses, peut-être un peu moins parce qu'on a forcément des impératifs de clients, des projets d'envergure un peu plus grande, etc. Mais on garde, comme disait Marvin, on sait ce que les deux autres vont faire. On sait comment on va aborder les choses. Du coup, des fois même, on ne se le dit pas forcément, mais en fait, on sait qu'on va se retrouver in fine sur le résultat final. Et puis après, si ça doit à un moment donné, s'il y a une communication qui est forcément quotidienne et sur les projets, là on se retrouve et on a toujours la même, je pense, la même vibe qu'il y a 10 ans, quoi. Donc
on a fait un dossier tout à l'heure, il y avait un dossier sur lequel tu étais, on l'a tous regardé, on fait c'est bon, c'est nickel, comme à chaque fois quand on se prend les quelqu'un travaille sur un dossier, si on n'a pas tous eu le temps de le voir, on sait quand on le regarde en général, il y a pas de choses à se dire entre nous. Mais c'est vrai que la partie collaboration avec nos prestataires, etc., elle est toujours un peu plus compliquée parce que nous, on a un autre univers et il n'est pas hermétique, mais il n'est pas toujours facile de le faire comprendre parce qu'il y a des codes dans la post-production, parce qu'il y a des codes. Nous, on travaille avec des boîtes qui, quand on veut faire des films, qui ont l'habitude de faire de la publicité ou des choses un peu... Mais c'est une mécanique. Puis nous, on arrive avec notre truc... un peu foufou, ou alors et donc il y a aussi une part de surprise due à ça souvent sur le résultat, parce que du coup même eux ils savent pas où ils vont et c'est excitant, mais c'est aussi parfois c'est cette bonne entente entre nous, pour nous tout semble très logique, mais parfois il arrive que ce soit plus compliqué à expliquer, mais c'est comme ça.
Et je rebondis là-dessus, mais aujourd'hui, on a quand même agrandi l'équipe. Donc, on est tous les trois. Il y a Kylian qui nous a rejoint il y a 2 ans. Ça doit être ça. Qui du coup tient le rôle de directeur artistique. Il y a d'anciens stagiaires qui désormais travaillent pour nous. Je pense à Mathieu, je pense à Léo et pendant un temps, je pense à Victor aussi. Maintenant, il a monté son studio.
Et puis, vous avez une studio manager qui a rejoint aussi.
Tout à fait, Julie. L'équipe. Julie, big up à Julie, qui nous aide et qui vient d'arriver aussi et qui, voilà, on apprend aussi nous à travailler avec d'autres personnes. Mais aujourd'hui, c'est le corps. C'est le corps de Golgotha. Alors, il y a nous trois évidemment, donc il y a. Sans parler de hiérarchie, parce que malgré tout, on est tous les trois, on est quand même les garants de notre de l'image et de la direction artistique et des promesses qu'on se donne à nous-mêmes et puis celles qu'on livre aux clients. Mais j'en reviens, c'est un peu pour boucler aussi cette question, mais c'est-à-dire que ça nous arrive par la force des choses de devoir de plus en plus sous-traiter ou en tout cas de travailler avec des prestataires qui travaillent à l'extérieur. Moi, j'adore parce que de toute façon, on se confronte aussi à une autre méthodologie. Puis de toute façon, on n'a tout simplement pas le choix. Parce qu'en fait, des fois, il y a des projets qui sont très importants et qui, sur le plan technique, nous dépassent. Donc, on n'a pas d'autre choix. Mais je constate toujours une petite différence dans le résultat. Quelque chose qui nous échappe et qui rejoint cette histoire de normalisation liée au logiciel où je sais que nous, on l'aurait abordé autrement, mais que malgré tout, on n'a pas les mains dans le logiciel. Donc, en fait, bien sûr qu'il y a quand même une direction artistique, mais il y a quand même l'intuition.
Ouais, parce qu'il y a une question d'interprétation aussi.
Il y a quand même l'intuition dans un processus de création, même sur d'un plan strictement technique. Il y a quand même des petits curseurs, des trucs que moi, j'aurais mis à 3000% par rapport à un technicien qui, lui, va être plus dans la mesure.
Oui, et puis par rapport au client aussi, souvent.
Ouais, bien sûr. Mais c'est un travail d'adaptation.
Tu veux dire pour que ce soit validé par le client ?
Non, quand on a une commande, en général, nous, on fournit un dossier, une idée, déjà des essais graphiques. On est assez généreux. C'est-à-dire qu'on va vraiment en mettre, souvent, je n'ai pas envie de dire plein les yeux, mais moi, je considère que ça l'est un peu. C'est-à-dire qu'on est très généreux, on propose plein d'idées. Et puis bon, souvent, ça fait un effet sympa. Et puis les clients trouvent ça bien. Et puis, c'est génial. Mais bon, on va se calmer un petit peu. Ou alors, on va enlever ci. Puis des fois, forcément, c'est normal. Ils ont aussi leurs enjeux, leurs problématiques. On ne peut pas non plus.
Non, on peut pas.
Mais c'est
faire
un peu aussi comme un traducteur, quoi, finalement, parce qu'il entend la même langue qu'un autre traducteur, mais il y a une question d'interprétation qui est aussi,
tout à fait,
qui est aussi présente et qui, du coup, va orienter le projet en fonction du collaborateur.
Voilà. Puis des fois, on se dit, on va faire. Une campagne, elle va être comme si nous on imagine plein de trucs, puis à la fin, il restera juste un produit avec le fond. Hein. Puis c'est pas grave, on se sera bien amusé tout le long. Des fois, le résultat, c'est difficile de toujours tout maîtriser. On fait le maximum en tout cas, mais ça, voilà.
Ouais. Et tout à l'heure, je sais plus si c'est toi, Guillaume, qui parlait de l'influence des jeux vidéo et de. Enfin, en tout cas, de l'animation. Je trouve que, du coup, de mon point de vue, qui est aussi la génération 90, c'est très génération 90-2000, quoi. Ça fait penser à tous les jeux vidéo aussi qu'on connaît, quoi. GTA et puis tous ceux qu'on a bien ridés quand on était jeunes. Est-ce que vous pensez que dans le design, il y a une forme de déterminisme aussi selon son histoire, son époque ? Et que finalement, on peut pas se débarrasser de ça. Justement, c'est avec aussi ce dans quoi on a baigné que notre design grandit.
Honnêtement, moi j'ai envie de dire que c'est un truc auquel j'ai même pas vraiment réfléchi parce que spontanément on va vers des références qui nous font plaisir et qu'on aime voir, qu'on aime travailler, qu'on aime montrer. On va pas aller se forcer à aller en 2020 pour faire ça ou en 1980 en fait. Nous, quand on en fait des choses, ça donne ça. Et en fait, on va nous dire, c'est super 90s. Nos influences sont là, peut-être, mais c'est vrai que ce n'est pas un choix. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment une.
C'est inné.
Non.
Je ne sais pas s'il y a une fatalité là-dessus.
Je veux rebondir là-dessus parce que ça me semble quand même quelque chose d'assez important, même par rapport à ce que l'image que les gens peuvent avoir de nous. Je ne crois pas du tout en ça, en cette histoire de déterminisme. En revanche, je pense qu'on est simplement guidé par, d'une part, l'intuition et la sincérité. C'est-à-dire vraiment d'avoir vécu cette époque-là, les années 90, et que ça nous est réellement... Enfin, qu'on soit traversé par tout ça, par toute cette génération de jeux vidéo, de films. Et c'est des jeux vidéo qu'on ne fait plus, ou une vision du monde même, une vision optimiste même du capitalisme, enfin de la mondialisation, c'est quand même hyper différent. Aujourd'hui, on a une énorme méfiance pour la publicité, mais les années 90, dans la publicité, c'était fou, quoi. C'était la folie. Ça regorgeait de créativité. Et voilà, bah, nous, on est nourris de tout ça.
Ils montaient pas le son pendant les...
Voilà. Bon, le fait est qu'aujourd'hui, moi, j'ai par exemple, j'ai plus de télé, je regarde plus. Mais ça veut pas dire que je suis hermétique au monde. Ça veut dire que je continue de vivre dans le monde et d'être réceptif à tout ce qui nous entoure. Mais force est de constater qu'il y a des choses qui résonnent moins chez moi. Mais ça veut pas dire que je suis bloqué dans les années 90. Et je pense qu'on est tout à fait capable de s'intéresser aux années 60, aux années 70, à ces codes-là, mais forcément une part inconsciente de nous va les regarder au travers des années 90. C'est ce qui fait aussi, c'est ce qui nous définit, tout simplement.
C'est une signature aussi.
Voilà. Après, maintenant, on s'interdit pas, et c'est pour ça aussi qu'on répond à une clientèle assez vaste, avec et qu'on s'investit dans tous les domaines qui nous sont hyper familiers, que ça va du jeu vidéo au cinéma, à l'édition, au clip. Mais parce qu'on est on est sensible à tout ça, on a une vision assez large, mais il y a quand même des choses qui font vibrer notre petit cœur et qui sont des génériques de jeux vidéo, ou des jingles de publicité, ou des répliques de films.
Et du coup, votre langage, bon, c'est au départ celui du designer graphique. Et j'avais discuté un peu avec Mathias Augustiniak et Michael Amzalak de MM Paris, ici même, de ces questions-là, de où on se situe quand on est designer graphique, directeur artistique, enfin, en tout cas, quand on utilise plusieurs palettes. Et eux parlaient de boîte à outils. Donc, dans certains projets, ils vont utiliser la boîte à outils du designer, etc., etc. Mais parfois, enfin, moi, je suis vraiment anti-case. Enfin, on en parlait un peu sur les questions d'édition, justement, Marvin, quand tu disais on nous a pas fait assez confiance pour nous confier d'autres projets d'édition. Enfin, en tout cas, peut-être depuis Incorporé Sano, je sais pas, on en parlera tout à l'heure. Mais comment on se retrouve, en fait, quand on manipule plein de boîtes à outils, justement? Comment on se définit? Quand vous vous présentez, quel mot vous utilisez?
J'ai dit qu'on fait de la création visuelle. Okay. Ça veut dire que les boîtes à outils, je ne sais pas où elles sont, mais en tout cas, nous, on a plutôt tendance à se dire que, comme disait Marvin, on a une sensibilité, on va l'appliquer un peu à tout support, quoi. Parce que c'est juste notre manière à nous d'appliquer notre sensibilité à un logo autant qu'un clip ou un truc comme ça. Et on ne change pas forcément de casquette. C'est-à-dire qu'on va, on va avoir une approche aussi forte, pour nous aussi intense, quand on fait de la direction artistique qu'un film, une publicité, une campagne d'affichage. Pour moi, ce n'est pas spécifiquement des boîtes à outils. Même en réalité, c'est un concept qui m'est un peu trop éloigné, cette idée-là. On le fait un peu naturellement, quoi.
Ok.
Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas si c'est en fait très naïf de notre part, mais encore une fois, moi je le répète souvent, quand on accueille des stagiaires chez nous, c'est une espèce de préambule, mais je leur dis répondez à ce que vous voulez faire. Enfin, je ne sais pas, répondez à votre sensibilité et votre sincérité. Après, voilà. Nous, c'est ce qui nous a nourris, c'est forcément des mondes complexes de jeux vidéo, de blockbusters dans lesquels on retrouvait des logos. Et du coup, toutes ces articulations, c'est des espèces de logiques qui se sont installées chez nous. Évidemment, donc je parle du premier projet qu'on a fait, qui est une collaboration avec le styliste Julian Ziegerli. On venait tout juste sortir de notre diplôme. D'ailleurs, on travaillait en parallèle plus ou moins sur notre diplôme et puis sur cette collection. On faisait des imprimés de mode. On n'avait jamais fait d'imprimé de mode. On s'est dit, mais en fait, c'est intéressant parce qu'on utilisait les mêmes logiciels qui nous servaient à faire de la vidéo pour obtenir des effets, pour faire ces imprimés de mode. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas les animer ? Donc, en fait, on s'est retrouvé à faire aussi, pas le vidjing, mais une sorte d'habillage scénique vidéo. Et de là aussi, on a fait un papier peint et puis ensuite un logo. Et en fait, toutes ces articulations, elles sont super logiques. Et parce qu'en fait, on y répond de manière intuitive. Ça ne veut pas dire que c'est logique parce qu'on les a intégrés techniquement. Mais c'est parce qu'on répond juste à une envie de vouloir faire les choses. Mais voilà, je ne sais pas. Après, encore une fois, on n'est pas sorti de l'école en se disant on a envie de tout casser, faire des trucs de fou que personne n'a jamais vu. Franchement, encore une fois, c'est
intuitif.
Ouais, intuitif. Il n'y a pas de business plan dans Golgotha. On ne s'est pas dit on a envie d'être dans l'industrie du jeu vidéo et en même temps de faire des logos. Tu vois, c'est
vraiment notre association qui a donné ça, quoi. Mm. En fait, les premières images qu'on a faites tous les trois, même nous, enfin, je me souviens, les premières commandes de magazines, tu vois, c'était quoi ? C'était Mirko Borch, je me souviens, avec
Super Paper.
Super Paper. Bon, bah, on bricolait des trucs sur Photoshop, hop, on récupérait un fichier de l'un à l'autre, on travaillait les trucs, puis on a regardé, on a fait, ok, ouais, c'est cool, on aimait bien, on était contents. Et c'était vraiment le résultat de trois cerveaux, trois créations. On s'est dit, ouais, c'est cool, on a envie de faire ça tout le temps, en fait. On aime bien travailler de cette manière, c'est ultra intuitif, c'est cool. Et en fait, ça se passe comme ça encore aujourd'hui, quoi.
Et au début, vous avez communiqué comment un peu sur votre sur Golgotha ? Est-ce que vous êtes passé par un site internet ? Parce que j'ai l'impression que c'était beaucoup au bouche à oreille et voilà, c'était novembre après.
Il n'y avait pas Instagram à l'époque quand on a démarré. J'ai plus, on avait un Facebook, mais c'était un peu balbutiant, quoi. Et après, on avait fait un site aussi. Mais après,
Il y a une chaîne YouTube aussi, non ?
Une chaîne YouTube, ouais. Il n'y avait pas beaucoup de spectateurs dessus, mais il y avait... Non, mais après, c'était marrant parce qu'il y avait justement ce côté... ça fait un peu un parallèle avec les groupes de musique qui disaient pendant la crise du disque que ce qui les faisait vivre, c'était le live. Bah, il y avait un peu de ça, vite fait, mais disons avec le VJing, où nous, quand on était sur le line-up du VJing, bon, bah, il y avait quand même le nom Golgotha, les gens se prenaient des visuels un peu pendant la soirée, on voyait un peu les réactions le lendemain, donc ça faisait un peu parler, quoi. Donc il y avait un peu, c'était un peu le live qui, quand même, nous mettait un peu sur la carte, quoi. Après, très rapidement, ça arrivait avec Instagram et Facebook, et puis maintenant, il y a le site qui... Le site, c'est un peu notre... on a une démarche très éditoriale dans la manière de présenter les projets, où on va chercher la manière la plus... on n'aime pas présenter le projet tel quel, quoi. On va montrer un peu les à côté.
Chacun de ces réseaux, du coup, il a un rôle particulier, par exemple Instagram, le site internet. Est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, d'Instagram qui est plus dans le présent, dans l'action, et puis le site internet plutôt dans l'archive
Instagram, on l'a utilisé de manière un peu différente en fonction du temps. Il y a une période où, au début, on postait un peu... des trucs pas quotidiens, mais on sortait une impression d'un truc, on prenait une photo, c'était le début. Puis après ça, encore plus tard, on a fait des stories, on filmait un peu tout ce qui se passait au bureau.
C'était littéralement TikTok avant l'heure.
On avait appelé ça le Golgozap, ça sortait toutes les semaines. Ouais. Et à chaque fin de semaine, on prenait tout ce qu'on avait dans notre téléphone, on le mettait dans un dossier, puis on faisait un petit montage avec de la musique. Puis des fois, il y avait des potes qui faisaient du son, et ils faisaient un petit mix pour ce truc. Et puis c'était notre manière d'utiliser Instagram. Plus on postait nos travaux dans le feed. Voilà. Le contenu était... on avait aussi un site web à l'époque. Et puis là, maintenant, en fait, on ne fait plus ça du tout. Le Golgozap, c'est fini.
En fait, on s'en est lassé.
On s'en est un peu lassé parce que c'était beaucoup de boulot. En fait, au bout d'un moment, il y avait de plus en plus d'exigences dans ce truc.
La semaine.
Vous ne pouviez pas prendre tout en charge.
C'était marrant, Stéphane. Mais c'est vrai que des fois, on se disait, mais qui s'en occupe là ? On ne peut pas.
C'était littéralement avant les influenceurs. Voyait déjà qu'il y avait une.
Il y a une réactivité.
Il y avait des réactions. C'était marrant. Et puis, en fait. ce truc-là, après on a arrêté, et puis il y a eu notre site internet, où là en fait, ce qui se passe, c'est que plutôt que de faire du contenu quotidien sur Instagram, mais comme le disait Antoine, quand on sort un projet, ben, y a des choses qu'on a envie de montrer sous un autre angle, c'est-à-dire que par exemple, on va présenter un logo avec un fond animé, par exemple, parce qu'on aime bien se dire que ça va le présenter d'une autre manière que la manière dont le client l'a présenté, parce que nous, nos images, on aime bien se dire aussi, sans non plus transgresser la direction artistique du projet, bien sûr, tout en restant dedans, mais on aime bien se dire qu'à un moment, bon, bah voilà, ce petit bonhomme, c'est une illustration, on va l'animer un peu, ça va être marrant, juste sur notre site, quoi. Et puis peut-être qu'on le postera sur Instagram.
On va dire quand même qu'on se simplifie pas les choses.
Non.
C'est-à-dire qu'en fait, le projet, une fois livré au client, il peut très bien continuer de notre côté. Et comme le disait Guillaume, se retrouver à payer un studio d'animation traditionnel pour animer un imprimé qu'on a fait pour Nike. Et tout ça dans juste le but d'avoir cette petite vignette sur la mosaïque de notre site, façon Netflix, quoi.
Ouais. Et voilà. Donc c'est une approche qu'on aime bien, parce que ben, du coup, le projet est mis en valeur à notre manière, et c'est aussi un autre layer en fait, dans notre travail, quoi.
Et ça, c'est des formes dont vous pourriez vous séparer. Enfin, d'ailleurs, est-ce que vous êtes sur TikTok ou pas?
Non.
Ok.
Moi, je regarde.
Non, mais parce que j'ai vu qu'il y avait TikTok à Cannes maintenant, les TikTokers à Cannes. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être un biais par lequel on.
Moi, je regarde un petit peu TikTok, passer. Mais pas de fou, mais c'est une plateforme qui est cool.
Ouais.
Ensuite, nous, notre approche, je ne pense pas qu'elle matche dans l'état actuel avec ce réseau-là. C'est. Enfin, on est un peu trop behind les images pour faire ça. C'est-à-dire, si on publie des petites animations sur TikTok, je suis pas sûr que ce soit vraiment très intéressant pour la plateforme. Après, je sais pas, je me trompe peut-être.
Mais tu pourrais peut-être finir dans les courts-métrages des TikTokers à Cannes. Ouais. Eh ouais.
Peut-être.
Peut-être. On va faire une petite pause en musique et puis on se retrouve juste après.
Impassif de souffre douleur, ni de ta faute ni de la leur, tu voulais être l'un des leurs. Copieur, copieur, dealer, dealer, killer, killer, montre-leur, montre-leur que t'es brisé de champion vainqueur, baratineur, bluffeur, trimmer, tu n'es juste qu'un pipoteur, mytho, lâcheur, tricheur, stalker. Dix joueurs.
On est de retour sur Hors Série avec Golgotha. On vient d'écouter un son de Ascendant Vierge qui s'appelle Influenceur. Donc vous avez travaillé pour la réalisation de ce clip à la DA. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet ? Parce que non, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que vous avez justement utilisé des codes des réseaux sociaux qui sont les filtres, qu'on peut appliquer sur les visages. Et il y a eu un grand nombre de collaborations sur ce clip. Est-ce que on peut décrire un peu les images de ce clip pour nos auditeurs ?
Décrire les images, je sais pas comment vraiment les décrire. Il y a beaucoup de choses. Par contre, c'est vrai que le moment où on a travaillé avec Kevin El Amrani en co-réal dessus. Nous, on s'est occupé vraiment de la partie digitale, effets spéciaux, et on a apporté l'idée de pouvoir faire des filtres sur le visage de Mathilde et Paul. Parce qu'en fait, c'était un moment où le filtre Instagram était devenu il y en avait beaucoup. On en voyait vraiment tout le temps. Et nous, on s'est dit, tiens, on va carrément en faire plein. Alors, on en a fait quand même un peu de notre côté. Puis, on s'est dit, ce serait quand même pas mal de voir si on peut mettre en place un travail collaboratif sur ce projet, travailler avec des artistes qui auraient envie de le faire, des artistes avec qui on avait envie de travailler, à qui on a proposé l'idée. Et puis, on a eu pas mal de réponses positives, de gens qui avaient envie de s'investir dedans, qui aimaient bien la chanson, Ascendant Vierge. Enfin, nous, ce titre-là, on l'aimait bien, donc on était contents de travailler dessus. Et puis, c'est comme ça qu'on a amené cette idée. Alors, ça nous a amené à créer un espèce de dispositif sur le tournage que Mathilde avait sur elle avec deux iPhones. Enfin, c'était la bricole, quoi, qui captait son visage. Puis on a pu le retranscrire derrière dans les infos 3D. Pour pouvoir ensuite s'amuser à récupérer les données du visage. Et les données du visage, on les a envoyées à tout le monde. Et tout le monde avait sa petite boucle de 3 secondes pour pouvoir mettre ce qu'il voulait dessus. Et puis nous, ensuite, on s'est chargé de tout intégrer dans le film. Et puis voilà, on a crédité tout le monde.
Parce qu'il y a une bonne minute, en fait, de générique de fin, qui est assez rare, d'ailleurs, dans les clips. C'est d'ailleurs un peu un objet qu'on oublie la plupart du temps, de s'y intéresser vraiment. Et là, tout le monde est mis à la même échelle, il n'y a pas de hiérarchie. C'était assez beau d'avoir cette minute-là. Moi, je voyais le temps des filles, je me dis, mais attends, il reste hyper longtemps, il va se passer quoi ? Parce qu'il y a une pause, en fait, un moment. Du coup, il va se passer quoi ?
Mais en fait, pour être tout à fait précis, au tout début, on connaissait déjà Mathilde et Paul individuellement. Et puis ensuite, quand ils se sont associés à Son Nom Vierge et que ce morceau est sorti, nous, on l'écoutait déjà depuis près d'un an avant qu'on le clip.
C'est vrai, ouais.
Donc en fait, c'était un morceau qu'on avait déjà vachement intégré et qui nous faisait un petit peu fantasmer aussi. Ça nous a donné l'envie de clipper ce morceau. Or, il se trouve que Kevin El Amrani, à cette époque-là, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais en tout cas, clippait tous leurs morceaux. Parce que voilà, ils étaient extrêmement proches et que voilà, il était déjà d'office dans le projet. Et du coup, on s'est retrouvé un peu dans une situation où on voulait bien nous confier la réalisation, mais un peu sous la supervision de Kevin. Et c'était chouette de pouvoir collaborer ensemble. Mais du coup, c'était un peu déjà une situation délicate. On s'est dit, tant qu'à faire, sachant qu'en plus, on avait déjà un petit peu cogité l'idée, on s'est dit, autant faire un clip générationnel, qui parle vraiment de notre époque, un peu comme le clip de Justice réalisé par Somi qui vraiment nous a tous marqués. Donc on s'est dit, quitte à ce qu'on soit deux sur le projet, autant qu'on soit 1000. Alors après, au bout du compte, on n'a pas été 1000, mais on a mis ce système en place effectivement de filtre, plus pour dénoncer que vraiment à la gloire des filtres. Mais voilà, c'était déjà c'était un beau projet.
Parce que finalement, il y a l'idée du collectif et de se montrer. Mais le filtre aussi, c'est pour se transformer. La plupart du temps, c'est soit pour faire une blague, soit pour être meilleur, soit pour se mettre en valeur. En tout cas, du coup, il y a quelque chose qui est de... Enfin, on en parlait la dernière fois, quoi. On voulait, au début, on a... On a inventé les téléphones pour pouvoir se téléphoner à distance quand on n'est pas à côté. Ensuite, la vidéo pour pouvoir se voir en vrai. Et puis finalement, on en vient à créer des avatars ou à se mettre des masques, justement. Et donc, il n'y a plus rien de vrai. En tout cas, à travers un écran, c'est assez... Ouais.
Mais il y a aussi ça, c'est-à-dire que moi, j'aimais bien cette idée de filtre parce qu'en fait, nous, des filtres sur Instagram, on nous en a commandé plusieurs. Et puis... on travaille d'ailleurs avec une équipe super pour ça, mais il y a beaucoup de limitations. Et en fait, là, l'avantage de ce truc-là, c'est que comme c'était pas de la réalité augmentée en direct, on pouvait faire vraiment plein de trucs. On peut s'amuser parce que c'est un film, parce que la 3D nous permet ça. C'est pas censé être vu tout de suite sur le téléphone. C'est un film. Donc on a dit tiens, on pourrait se projeter et vraiment créer des trucs un peu fous, quoi. Et je pense que c'était un super terrain de jeu. C'était très cool.
Je vais faire un bond un peu vers le print, là, donc vers Incorporé Sano. On a beaucoup parlé de 3D, vidging, vidéo, etc. Donc sur le print, vous êtes en collaboration avec le magazine dédié au bien-être, en tout cas la culture du bien-être, voilà, qui a été créé par Pascal Montfort. Comment elle a débuté cette collaboration et comment justement vous arrivez à passer d'un clip par exemple comme pour Ascendant Vierge à un objet qui est on va dire palpable dans le sens où on peut le tourner dans les mains et le poser sur une étagère.
Comment on est passé de ça à ça, en fait je pense que c'est nos travaux qu'on fait le travail tout seul, c'est-à-dire que Pascal, à cette époque-là, en tout cas, est venu me voir, je crois, un soir. Il m'a dit, ouais, c'est cool ce que vous faites, il faut qu'on se parle, j'ai un projet de magazine. Bon, je ne sais pas s'il avait vu Ascendant Vierge, je ne sais pas si c'était sorti déjà, je ne sais plus où c'était avant. On avait fait d'autres choses, et puis il a dit, voilà, j'ai un projet, c'est un magazine. Et donc moi, j'ai trouvé la demande super cool, parce que du print, en fait, on n'en faisait pas. Il faut savoir quand même, aux Arts Déco, on a fait beaucoup d'études. Enfin, du print, c'est tout ce qu'on faisait, quoi. Enfin, beaucoup. Et du coup, il nous a dit, j'ai ce projet-là, et j'aimerais bien que ce soit vous qui vous en occupiez au niveau de la direction artistique, de à quoi ça va ressembler, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et c'est pareil, encore une fois, un super terrain de jeu pour nous, parce qu'on dit, attends, on va faire de la typo, on va faire des images en 3D, des images en 2D, on va pouvoir mettre toute notre créativité à l'épreuve d'un support papier, quoi. Et ça changeait vachement pour nous, parce que c'est vrai qu'on n'en avait pas fait.
Ouais, c'était important, et puis surtout, c'est étrange que ça survienne presque au bout de 8 années d'expérience de Golgotha, durant lesquelles on n'a jamais été confronté à un projet de cette nature-là, quoi. C'est-à-dire, effectivement, on était diplômés des arts déco, on sait manier les outils propres à l'édition, mais en fait, y a un truc très français où on nous a très tôt mis dans une case qui est celle de la mode, qui est celle de l'entertainment, je sais pas, mais plein de choses. Et effectivement, après, le rap, la musique, le jeu vidéo, une écriture un peu trop lourde, dans laquelle les gens ne se projetaient pas pouvoir nous faire confiance, en tout cas sur ce terrain-là. Et on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, et j'en profite d'ailleurs pour le remercier ce soir, Pascal, d'avoir...
Big up.
Ouais, big up à Pascal, parce que je trouve qu'il a été quand même courageux, parce que ça représente quand même... déjà un investissement, c'était le numéro un. Il nous a accueillis dès le début de son projet. On a réfléchi ensemble, même pas seulement au graphisme, mais même à l'édition, le contenu.
L'éditing, ouais.
Ouais. Et il nous a fait confiance sur tout un tas de sujets. On lui disait, on n'a pas de publicité, on va faire des fausses publicités. Pour ce fait, on va accueillir... plein d'anciens stagiaires qui avaient monté leur studio pour assurer leur promotion, qui vont faire des faux produits, des haltères, gourdes, des trucs comme ça. Enfin voilà, ils avaient carte blanche.
Des vraies images finalement avec des produits, ouais. Enfin qu'on n'a pas l'habitude forcément aussi de voir, en tout cas des natures mortes avec des objets qu'on n'a pas l'habitude de voir.
Totalement.
Aussi.
Du coup, c'est un projet qui nous a beaucoup évidemment. Excités et qu'on a pu aussi investir, mais différemment. Je pense que si ce projet nous était parvenu au tout début de Golgotha, on l'aurait fait un peu de manière justement académique, peut-être. On aurait voulu peut-être, on ne se serait pas fait suffisamment confiance pour se dire viens, on lâche les chevaux, on va faire un truc, un magazine dans lequel on va trouver de la 3D, on va renverser la mise en page. Enfin, à chaque article, on fait exploser la grille. Enfin, et là, voilà, ça nous est arrivé, c'était un peu un alignement des planètes et on a pu s'exciter autour de ça. Et puis, on en est au troisième numéro, on a un petit peu... accueilli du monde sur le troisième numéro. Il y a Manon Bruet qui nous a rejoint dans l'équipe et qui a un petit peu structuré aussi.
Big je up pense aussi que, à Manon.
Big up à Manon aussi. Mais voilà, en tout cas, et l'équipe de Pascal est géniale parce que sur tous les... Encore même au numéro 3, sur tous les sujets, on ne se retrouve pas nécessairement. Parce que effectivement, on n'appartient pas à la même génération, on n'a pas les mêmes sensibilités. Et Pascal, je le redirai souvent, mais il a l'intelligence de comprendre qu'il ne comprend pas, qu'il n'entrevoit pas tout à fait, qu'il ne partage pas nos goûts, mais il sait que nos goûts, pour autant, il va dire que c'est important. Voilà, même si on est en désaccord, il va dire c'est pas grave, on avance et je vous fais confiance. Et voilà, c'est...
Est-ce qu'on peut remettre un peu juste le contexte de création de Incorpore Sano? Pascal Monfort pouvait pas être là ce soir, mais peut-être que vous pouvez en parler un petit peu des origines, en tout cas de la création de ce magazine.
Ouais, Pascal, je crois que c'est autour de 2018-2019, on s'est retrouvé, donc effectivement Guillaume l'a croisé à un vernissage, ils ont discuté et Pascal qui a de la bouteille quand même dans l'édition, lui, il nourrissait depuis plusieurs années, je crois que c'est un de ses rêves d'avoir son magazine, de pouvoir être aux commandes. Et voilà, en fait, c'est super parce qu'il avait déjà cette idée de vouloir faire quelque chose en lien avec le wellness, avec le wellness, avec le bien-être et toutes les formes contemporaines que ça peut prendre, en fait. Et voilà, donc c'est un prétexte et un terrain de jeu, donc pour approcher tout un tas de sujets. Et voilà. Et donc les choses, encore une fois, se sont faites un peu manière intuitive, quoi, un peu empirique. Il y a un premier sujet, un second. On improvisait des shootings dans la cour à l'époque dans notre atelier à Belleville.
Et puis on ressent aussi toute l'influence justement du travail de Pascal Monfort, entre cette transversalité qu'il peut y avoir entre justement le sport, la mode, le bien-être.
Tout à fait, ouais.
Peut-être qu'on peut lire l'édito, vous voulez le lire ou je le fais. L'édito du premier numéro. Inspirez lentement. Inspirez les autres, respirez fort, respirez vite, respirez la vie, se faire belle, faire le beau, se faire beau, faire la belle, se faire du bien, faire le bien, se faire mal, se faire la mal, marcher loin, marcher mieux, mâcher mieux, manger bien, manger sain, gonfler les muscles, sortir ses seins, soutenir les siens, pumper ses fesses, courir vite, courir les filles, courir les mecs, courir des titres, prendre soin de soi, prendre son pied, prendre sur soi, prendre soin de l'autre, perdre pied, perdre du bide, prendre des coups, boire un coup, sauter haut, voler haut, viser juste, être juste, pousser ses limites, pousser de la fonte, rire, sourire, tout dire, mentir, faire le jeune, expirer. Ok, ouais, c'est beau, c'est un bon enchaînement et c'est un peu tout ce qu'on retrouve aussi à l'intérieur de ces numéros. Et du coup, comment vous avez abordé la collaboration justement avec Manon Bruet, que tu vous disiez qu'elle est venue un peu structurer sur le numéro 3?
Oui, il y avait le premier numéro s'est fait un petit peu dans la précipitation parce que en fait il y avait des impératifs de temps, il y avait des impératifs économiques tous les choix qui ont été faits n'étaient pas forcément les meilleurs donc elle est arrivée à un moment donné où on ressentait le besoin aussi d'optimiser le magazine. Le deuxième s'est fait un peu sur le même modèle que le premier. Et en fait, très vite, on sentait qu'il fallait, tout en conservant la forme, le réajuster. Et il y a un moment donné, ça survient aussi à un moment où aussi on est en surcharge de travail. Et pour l'ensemble de nos projets, presque dorénavant, pas tout à fait, mais en tout cas... pour presque l'ensemble de nos projets, on est obligé désormais de s'entourer de personnes qui viennent un petit peu nous soutenir techniquement ou en tout cas nous seconder. Et en fait, Manon, bah, on lui a fait confiance pour mettre de l'ordre, faire des choix en qualité de graphiste, vraiment, pas juste exécuter, hein, mais faire un choix de papier, un nouveau choix typo, et voilà, pour optimiser.
Mais aussi, la forme, ça apporte un autre statut à ce magazine, parce que justement, on parle de magazine, mais on a plutôt, on n'est pas sur un magazine qu'on va amener un peu partout, on est vraiment sur un objet qui nous demande presque d'être installé un peu confortablement et d'avoir une table, et parce que c'est une couverture rigide, c'est pas un objet qui est facile à transporter. Du coup, c'était quoi l'intention là-dessus? Parce que c'est un objet à garder finalement, alors qu'un magazine, c'est la plupart du temps, enfin... Ça dépend lesquels maintenant, mais on les regarde et puis on les laisse de côté et puis ça vit plus derrière, quoi.
Pour moi, enfin, je considère que le fait d'avoir choisi une couverture comme ça rappelle aussi un peu la bande dessinée qu'on range dans son étagère. Bah, peut-être qu'on la relira un jour ou pas, mais on aime bien avoir un format comme ça sur notre bibliothèque. Et moi, je trouve que ça met quand même. Enfin, après, c'est. C'est pas valable pour, c'est peut-être valable pour tous les magazines, je sais pas, mais moi je trouve que ça met aussi en valeur le contenu, que ce soit fait de cette manière, parce que ça, c'est comment dire, moi je le lis pas de la même manière qu'un magazine, je vais pas le feuilleter à vite fait comme ça, je le regarde, quoi, je sais pas, c'est pas tout à fait pareil pour moi, c'est pas la même approche. Et ce format couverture en dur, bah, c'est un peu le truc qu'on a gardé, quoi. Effectivement, Manon, elle a remis vachement... moi, je trouve qu'elle a mis un coup de fraîcheur au magazine avec la mise en page et tout. Elle a fait un super boulot. Et ça, c'était un peu la contrainte de dire « Ouais, on garde une couverture comme ça. » Et je trouve que là, du coup, on arrive à quelque chose de cool. Ouais.
Et vous avez envie d'en faire d'autres, des projets d'édition, ou c'est un endroit où peut-être vous, aujourd'hui, maintenant, vous avez moins envie de participer?
Alors, c'est cool. Hein,
là, on travaille, on est au tout début du projet, enfin du numéro 4. Après, forcément, on nourrit l'ambition de pouvoir s'investir plus librement dans l'édition, mais... Voilà, il y a des projets qui sont peut-être en cours et qui peut-être nous amèneront à en faire, ou en tout cas à investir l'objet éditorial, mais c'est pas du fur, et puis c'est pas... Mais encore une fois, après, c'est quelque chose aussi de typiquement français, c'est ce qui fait au bout du compte que Pascal est peut-être aussi une figure un peu spéciale parmi nos clients, c'est-à-dire que c'est vraiment la personne qui nous a permis de pouvoir faire ce magazine, ça nous a pas vraiment ouvert la voie vers d'autres projets de ce type, quoi. Mais c'est peut-être aussi que c'est pas plus mal. Mais
Ce qui est intéressant dans cette forme, c'est qu'elle évolue au fur et à mesure des numéros. Enfin, oui. Bon, si le 1 et le 2 sont sensiblement sur le même plan, le troisième, donc avec l'intervention de Manon, mais pas que. Du coup, il y a une forme évolutive aussi du livre. Donc, c'est un peu de la même manière qu'on pourrait regarder un projet en mouvement, quoi. Parce que...
C'est assez juste parce que moi, je considère que ça reste quand même. Il y a une partie un peu expérimentale dans ce magazine. On a envie de faire un truc, on y va. Bon, après ça, évidemment, on partage les choses avec l'équipe. Hein. On n'est pas en roue libre complète. C'est un projet. Tout le monde a son mot à dire. Mais c'est un terrain, quoi. Les titres sont un vrai sujet d'expérimentation. La typo, les photos, les images 3D, les fausses pubs, les illustrations. Il y a énormément de... En fait, c'est très riche. Il y a énormément d'endroits.
Il y a beaucoup
de
collaborateurs aussi, de personnes qui écrivent. Il n'y a pas que Pascal Montfort qui écrit.
Ouais.
Donc ça réunit aussi.
Dans tous les sens.
Ouais.
C'est vraiment. Puis là, on adore faire une quatrième de couve un peu folle. On aime bien travailler avec un illustrateur qu'on aime bien et puis on lui propose de travailler ensemble sur le magazine. Et puis on dit tiens, cette image-là. On va la mettre en quatrième, si ça te va, bien sûr.
Et puis il me semble qu'il n'y a pas de code barre.
Alors, pas sur le numéro 3.
Ah, pas sur le numéro 3.
Ouais. J'ai pas regardé. Mais c'était un peu la volonté aussi de Pascal de pousser les limites du magazine et de s'affranchir aussi de tout un tas de, d'abord de périodicité, parce qu'en fait aujourd'hui on est dans quelque chose de plus fluide aussi, on vit dans un monde beaucoup plus incertain.
Ouais, parce qu'il n'y a pas de date non plus, non ?
Il n'y a pas de date, ouais, donc on est vraiment off-grid et off-radar sur... voilà, en termes de planning annuel et donc on s'impose pas non plus
parce que c'est un semestriel normalement, enfin du coup là c'est un peu de temps en temps,
non,
du coup,
mais
c'est ça
en fait il devait y avoir une logique mais qui a éclaté avec le Covid évidemment et voilà, maintenant on est dans une dynamique fluctuante où en fait on accueille les moments. Voilà, il y a des synergies où en fait on se retrouve, il y a une rencontre et on se dit là on poursuit le projet. Mais on s'impose aucun délai quoi.
Du coup on parle du livre, on va parler un peu de l'archive. Quand je suis venue la semaine dernière vous voir, on remarque dans votre dans votre bureau qu'il n'y a pas forcément de projets qui sont exposés, que vous regardez. Et il y avait une bibliothèque dans laquelle vous m'avez dit qu'il y a aussi bien les livres qu'on a fait que les livres qu'on a achetés et que la plupart de vos archives étaient sur un serveur. Du coup, comment on... Parce que ça a l'air... Enfin, c'est déjà compliqué de faire un archivage en réel. Mmh. Comment ça s'organise sur un serveur ? Comment on retrouve parce que là ça fait 10 ans quoi.
Le serveur il... en fait c'est marrant parce que quand on regarde le serveur qu'on a qui fonctionne très bien d'ailleurs, c'est cool, mais en fait c'est par année. On a donc un dossier de 2012. Bon bah il y a pas grand-chose. Et puis et c'est très mal organisé. C'est-à-dire que c'est vraiment des fichiers en vrac, on a vidé nos Macs là-dedans, c'était, tu vois, une espèce de corbeille qu'on ne vide pas. Voilà, et puis 2013, 2014, puis c'est aujourd'hui où en fait, par la force des choses, il faut quand même s'organiser, parce que il faut qu'on puisse être en mesure, des fois, de renvoyer des choses, de faire en sorte que quand le client nous demande un additif ou quoi, de tout retrouver, de pouvoir faire ça bien et tout. Donc forcément, mais on... En fait, la seule archive qu'on a, c'est parce qu'on range les fichiers, quoi. C'est un peu ça, hein. Et puis les trucs physiques, quand on en a, et encore, on a fait des posters, des trucs, ils sont même pas accrochés dans le bureau, on les a foutus.
Disque d'or aussi.
Et on a un disque d'or là qui est arrivé il y a pas longtemps pour Oh Boy.
Ouais.
D'ailleurs,
le disque d'or, c'est quand même l'objet qui met tout le monde au même niveau. Enfin, je veux dire, tous les collaborateurs du projet le reçoivent. C'est quand même assez hallucinant. Enfin, peu importe le niveau des collaborateurs, que t'aies posé une voix, que t'aies en fait disque d'or. Ouais. Peut-être qu'on devrait inventer ça aussi dans le design.
Le crayon d'or.
Ouais, le crayon d'or.
Ouais, mais en fait, notre atelier, il est quand même plutôt épuré. Enfin,
Ouais, mais on aime bien être, au final d'avoir un peu de.
C'est ce qu'on te disait quand t'es passé. Qu'il n'y a pas un truc où. C'est pas le musée des horreurs de Golgotha, tu vois, avec les posters à notre gloire et tout. Enfin, c'est pas.
Mais toi, tu parlais du poids d'un héritage que.
Moi, j'aime bien arriver le matin et pouvoir me consacrer pleinement au présent. Ouais, d'être vraiment en phase avec le projet sur lequel je bosse et pas les trucs à droite à gauche qui te rappellent que t'as fait ça, que pour tel truc t'as connu tel succès, et que ça a bidé.
Justement, il n'y a jamais d'angoisse de se dire « et si on n'y arrive plus ?» ou « si on n'y arrive pas ?»
On ne se pose pas la question, mais comme tous les studios, j'imagine, il y a des moments de... Enfin, on a des moments de creux, on a des vagues. À ce moment-là, évidemment, on se dit « tiens, c'est le moment d'initier un truc ». Et là, on n'a pas le temps, il y a un autre projet qui arrive. Enfin, c'est toujours un peu comme ça, mais je pense que c'est normal. Ça ne peut pas être.
Mais à trois, c'est peut-être moins douloureux que seul. Dans les formes collectives, où il y a peut-être l'un qui prend le relais sur l'autre.
Oui, je pense qu'à trois, on s'aide tous les trois. Donc, il y a du monde autour. On n'a pas le temps de bader, quoi.
Non, ouais, et puis c'est-à-dire que moi, je trouve que quand on est là, genre à se dire. Là, quand même, on finit ce projet, on n'a plus rien. On se pose la question, puis deux secondes après, on voit que tout va bien.
Non, mais c'est d'abord, c'est rassurant. D'abord, c'est quand même très rare qu'on se retrouve dans des situations vraiment désarçonnantes où chacun nourrit une énorme inquiétude.
On a eu quelques creux.
Après, ça, c'est. c'est presque essentiel aussi d'avoir ces moments-là pour
revenir... Il y a toujours des moments un peu de doute où on est tous un petit peu sur le qui-vive et on est dans l'attente. Mais en fait, d'abord, on n'est vraiment jamais à se tourner les pouces. Et non, effectivement, d'être à trois, bah, ça rassure, quoi. On sait qu'on affronte les choses en groupe et qu'on est solidaire. Et puis, il y a aussi une chose très pragmatique, mais c'est le fruit de notre travail qui nous a rendus un petit peu plus confiants. Et sur tous les plans, d'un point de vue émotionnel, mais aussi même financier, on est capable d'endurer des périodes de sécheresse, quoi. Donc, mais voilà, maintenant, oui, bien sûr. Et puis, bon, bah, faut pas oublier que moi, j'ai toujours l'impression d'être un jeune studio, mais en fait, on peut plus trop se présenter comme ça. L'année prochaine, on va souffler notre 10e bougie. En tout cas, pour nous, après, c'est comme ça. En tout cas, on est plus serein.
Dans le son qu'on a écouté en ouverture, I Don't Like de Chief Keef, c'est une liste exhaustive de I Don't Like. Et du coup, vous, c'est quoi cette histoire? C'est quoi l'anecdote à Los Angeles?
C'est beaucoup plus simple que ça. C'est juste que c'était une soirée pendant laquelle on s'était vachement amusé. Et c'était sur ce titre-là, et on est... C'est ça, je crois.
Ouais, non, en fait, c'est quelque chose d'assez simple. C'est une soirée, mais il sait même pas... Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment d'anecdote là-dessus. C'est juste... C'est la sortie d'un titre, et puis c'est une soirée où, en fait, tout simplement, je ne dis pas que je suis nostalgique de cette époque, parce que c'était quand même...
Non, parce que tu vis au présent, Marvin.
Ouais, voilà, et puis c'était quand même, concrètement, c'était quand même la galère. On n'avait pas une thune, on vivait sur des matelas gonflables à Los Angeles, mais il y avait quand même une innocence et vraiment... une sorte de promesse, quoi, quelque chose, l'envie, la motivation qui était là, quoi, fallait le faire, et puis on était dans l'euphorie de cette soirée, et en fait je m'en souviens qu'on était vraiment les trois losers à pas connaître ce morceau, et tout le monde suivait le morceau, et genre il y avait une ferveur collective, sauf nous, on était vraiment sur les bancs des nazes, quoi, genre, non, mais c'est un truc, c'est le genre d'expérience, c'est le genre d'anecdote aussi qui nous a soudés. C'est des trucs bidons, mais genre où moi j'ai pu être en dèche et Guillaume et Antoine m'ont filé des coups de main. C'est vraiment une expérience où, en fait,
au service de
l'art. Ouais, c'est ça, il y avait vraiment une poussée commune, quoi. C'était, on a envie de faire ce projet, c'est tout ce qui compte pour nous, et à ce moment-là, c'est ce qui nous a conduit à concrétiser. Et je pense que mais c'est ce qui nous a vraiment permis d'en arriver là où on en est. Encore une fois, je me le répète, et j'espère que beaucoup d'étudiants qui se jettent dans le graphisme m'écouteront, mais c'est vraiment, on y a répondu avec énormément de sincérité. C'est-à-dire que quand on a fait tout ce qu'on a fait, et vraiment à Los Angeles c'était le cas, c'est-à-dire quand on expérimentait la 3D ou After Effects ou ces logiciels-là.
C'était sans mentir.
C'était sans mentir, et puis ça n'appartenait pas au décor, au paradigme du paysage du graphisme français. C'était pas, on n'avait pas l'impression d'être des pionniers ou des précurseurs, c'est-à-dire qu'on le faisait en se disant pas qu'on allait apporter une plus-value au graphisme. On le faisait parce qu'on avait envie de le faire. Et je pense que c'est ce qui nous distingue aussi aujourd'hui, et c'est ce qui nous... j'ai pas la prétention de penser que ça nous inscrit définitivement dans l'histoire du graphisme, mais en tout cas, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est heureux tous les jours d'aller dans notre atelier, de travailler, de toujours s'épanouir dans des projets, et aussi bien une Corpore Sano qu'à son Envierge, que pour Booba ou PNL ou n'importe quoi.
Et justement, on peut parler, parce qu'on écoutera un titre de Booba après, mais est-ce qu'on peut parler de ces collaborations? Comment ça se passe? Est-ce que c'est directement avec l'artiste? Est-ce que c'est avec son équipe? Comment ça... Qui valide? Qui...
Bon, ça dépend vraiment des projets, hein, ça dépend des artistes. Je sais pas, tu parles de Booba particulier?
Ouais.
Booba, c'est pas en direct avec Booba, c'était en direct avec Chris Macari, qui était son réalisateur attitré. Et on avait eu le contact via Will Star, qui était son beatmaker, un de ses beatmakers. Donc il y avait tout un process un peu.
C'est vous qui êtes allé le chercher
Will Star?
Ouais.
Non, c'est lui qui nous a contacté. Okay. Ouais. Et
Bon, après, on savait qu'il travaillait pour Booba, donc ça nous mettait un petit peu le goal un peu au loin. Mais on avait, voilà, c'était assez fluide en fait dans les échanges avec Chris Macari. On avait des retours un peu de Booba indirect, mais ça restait quand même assez, disons, sur le plan visuel avec Chris, quoi. C'était pas... Enfin, Booba, il était un peu loin, quoi, à Miami, mais...
En fait, c'est un projet très spécial parce qu'il avait filmé Booba déjà sur un fond vert. Et puis, il a dit, est-ce que vous pouvez faire un peu de magie
projet. Donc, on est en train de parler du clip éléphant de Booba.
Ouais, il nous a dit, est-ce que vous pouvez faire ça, voilà, des animations sur le fond vert et tout. Nous, au début, on a hésité, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment... à l'époque, on s'est dit, tiens, c'est cool de bosser avec Booba. On a reçu les footage et tout. On s'est dit au début, on a hésité, on s'est dit, ouais, est-ce que c'est celui-là qu'on veut faire avec Booba ou est-ce qu'on dit pas, genre, vas-y.
Rappelle-nous pour
dit,
le prochain.
Ouais, on s'est dit, non, mais on était enthousiastes. Donc, on a dit, vas-y, ok, on y va. Et donc, on a grave travaillé. On a fait des décors en 3D. Nanana, on a fait un format très spécifique et tout. On a été à fond, mais vraiment à fond. Enfin, moi, j'adore encore. Quand je le regarde, je le trouve très cool. Et ça n'a pas eu l'impact final que ça aurait dû avoir comme un clip de Booba, mais après ça, il a au moins pour moi l'avantage d'être un outsider en termes de clip.
Et puis autonome, quoi.
Ouais. Et si tu veux, c'était un projet sur lequel on s'est vachement, enfin, à le faire, on s'est amusé en fait, c'était cool. Et voilà. Et en gros, ça s'est passé comme ça, on a livré le clip. Et ça n'a pas...
Non, il y a eu, on peut le dire, il y a eu un bad buzz énormissime. Ouais. Genre, le clip a été déprogrammé.
Floppé total.
Ouais. Et en fait...
Mais c'était à l'époque sur Au Calme TV.
Ouais, mais c'était bancal.
Ouais, mais justement,
il a posté 30 secondes, genre. Et après, il l'a enlevé.
Mais c'était quoi la raison?
C'est une expérience. Ah, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, il y avait Booba qui gigotait sur un fond vert. Nous, on a dû meubler. On a fait un matte painting. Voilà. Et voilà. Mais il y avait très peu de valeur de plan, il n'y avait pas
c'était
trop de dynamique.
C'était très difficile comme exercice, en vrai.
Non seulement il était sur fond vert, mais il était déjà monté, le clip, parce qu'il était déjà, il était déjà passé entre les mains de quelqu'un qui s'était un peu planté aussi.
Pour moi, il ne s'était pas forcément planté, dans le sens où il avait fait vraiment les plans qu'il voulait. Enfin, tu vois, c'était carré.
Ouais, mais il y avait déjà un premier... Il y avait un premier matte painting qui avait été... Voilà, bref.
Ouais, avait
et du coup, on s'est retrouvé dans une situation un peu de damage control. Mais en fait, pour nous, c'était une consécration. On voulait travailler pour Booba et c'est quelqu'un de très dur à approcher. Donc, on s'était dit, c'est l'occasion jamais. Si on relève le défi, c'est gagné, quoi. Et à mes yeux, le clip, il a quand même sa singularité. Je prétends pas qu'il soit réussi, mais en tout cas, force est de constater que genre le public de Booba ne l'a pas accepté du tout. Et en fait, vraiment, on est tombé des nues. C'est-à-dire que on voyait le bad buzz en direct et on voyait des réactions où il y avait des gens qui me disaient ouais. Tu me laisses une heure au CDI, je te fais un meilleur clip. Enfin, tu vois, il y avait vraiment quelque
au CDI,
chose.
CDI, quand même.
Ouais.
C'est méga drôle, mais
ça nous met un peu sur la voie.
On était un petit peu deg sur le moment. Et puis ouais. Avec le recul, voilà, c'est comme ça.
Mais
du coup, il vous a pas rappelé.
Non, mais ça force aussi l'humilité. C'est aussi important, ce genre de.
Après, parfois, dans ces bad buzz, c'est là où justement aussi qu'on parle de toi en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de toi, il y a un truc aussi où ça tourne. Quoi.
Ouais,
après, nous, en vrai, ça nous a pas forcément.
Ça nous a pas été préjudiciable. Non.
C'est pas ouf, non. On a eu quelques gars qui sont venus nous voir après, ouais, bon, tu peux nous faire un clip, mais bon, tu sais, c'était genre des trucs un peu tombés nulle part. Mais en réalité, c'était pas étant une déception, parce que moi, je l'aime bien ce truc. Parce que je trouve qu'en termes d'animation, c'est un truc vraiment unique. Enfin, je trouve que tu verras pas de clips comme ça.
Puis il y a une histoire aussi, quand même, dessus, du coup, à raconter. Ouais.
Voilà.
Et comment ça s'est passé aussi pour PNL? Après, on va s'arrêter là. Mais pour PNL, ça vous a ramené aussi à votre pratique de VJing un peu ou...
Un petit peu. Ouais. Mais là, du coup, programmé. C'est pour ça que je disais au début qu'on avait fait plus tard des choses... C'est pour ça que je disais au début qu'on avait fait des choses un peu plus programmées plus tard. C'est parce que, justement, avec PNL, là, il y avait un... Mais il y avait un scénario qui était dessiné par eux, avec leur tracklist. Il y avait une scénographie plus ou moins existante déjà dès le départ. Et puis, bah, nous, on est intervenus en discutant avec eux. Parce que PNS, ce n'est pas un label. C'est, Donc, c'était pratique parce qu'on pouvait discuter ensemble de ce qu'on voulait faire, de leurs envies, de nos créations, de où est-ce qu'on voulait aller. Donc ça, c'était cool. Et,
Du coup, c'était du sur-mesure, là, sur-mesure. Pour le coup.
Ouais, et calé sur le rythme, sur des moments et tout. Et c'était une expérience sympa. C'était, c'était bien, et c'est des mecs cool. Enfin, c'était dans le rush, parce que, comme souvent avec la musique. C'est pas de la faute de PNL.
Sauf là, ils ont réussi à avoir 2 ans de plus pour leur dernier tour.
Mais... Voilà, là, je pense qu'ils ont eu le temps de travailler. Mais là, à l'époque, ouais, en 2017, il fallait y aller vite et fort. Et, du coup, ben, le résultat, moi, j'étais content. C'était bien. Et puis aussi, je crois, pour une première tournée, c'était assez cool. Et c'était bah, pas du VJing comme on l'entendait nous. C'est-à-dire que vraiment, on a livré le package. Quoi, et puis ensuite, ben, on a pu aller le regarder. Dans le public, quoi. Pour un VJing, c'est
ouais,
marrant, ça c'est cool.
C'est ouais. Bien. On va s'arrêter là.
Yes.
Est-ce que vous avez des choses à ajouter je sais pas, quelque chose que vous voulez dire sur le design? Non, rien, c'est bon. Peut-être Marvin, tu veux parler du générique,
allez, votez.
Du générique de Pat Patrouille.
Ah, hop. Non. Non, non, c'est bon.
Rigole. On l'a pas là, on l'a pas téléchargé, mais on va écouter Booba plutôt éléphant. Merci d'avoir accepté de venir dans l'émission.
Merci à toi.
Merci.
C'est trop cool.
Et puis voilà, on va s'arrêter là. On va écouter Booba. On se retrouve pour un nouvel hors-série bientôt. Ou sûrement à la rentrée. Ça, c'est pareil, c'est de temps en temps. mais la soirée continue à la Villette en direct de la radio avec un concert live de Lazzagio. Merci, bonsoir.
Doucement, mais seulement. Avant de te séduire, ce sera très élégant. À aboyer sans mode, tu vas te casser les gants. Avant de les détruire, je laisse parler les gens. Je n'aurai jamais tour des bois, je ne tue pas l'éléphant. Les mieux armés, caloches, musiques sont les mieux lotis. J'ai que qui trempe dans l'eau, je pousse du guillotine. Crâle vitré, noir, donc sombre, mélodie. Écarté pour un prénom cérémonie. Fonqué, j'suis un peu parano. J'mets le pompe dans le jacuzzi. On te fait parler à la tronçonneuse. Oh, dans le monde atomique. Carla Bruni, joue de la gratte à Sarkozy. Petite marocaine, c'est ta paire plus connue. J'suis connu en Inde à Champigny. Sardane veut faire un tour dans Bokini. En niquant beaucoup de mer, on se bonifie. Et sur fils de chemin intensif. Dans sa mère, si on y est bien, on y vit. On débarque dans mon M, blanche de Bolivie. La cocaïne est plutôt bonne ici. Montagne de fer, tout le monde a fait de la police. On dit jamais ce qu'on fait, mais on fait toujours ce qu'on a dit. Tu vas savoir qui je suis, je rentre dans ta chenille que j'ai mon ID. Si t'as pas la moula, toi bon, moula, bouge la BDMB. Oh, bouge pas, allo, moi ça, pour vouloir un genre PVD. Qui affronte le duc, cours à une fin tragique. Et ta mère la bête sur ma carte de visite. Si Jordan sous terre, c'est résolu. Les uns comme toi font que personne évolue. Sont-ils vraiment, je m'interroge. Je fais 7 à 8, mes ennemis sont devant la déloge. Noir, malheureusement, au camp des loges. Quand je veux le parc des princes, ça mangera dans ses loges. Oulala, bon boula va faire de la moula. Oulala. Oh la la.
va faire de la moula. On fait ça doucement mais salement.